Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, on va discuter de la Paracon, Parapsychological Convention, à laquelle je suis allé début juillet, donc ça fait à peu près un mois que je suis de retour. Et je suis donc avec Renaud Évrard qui était aussi. Salut.
Salut, bonjour tout le monde.
Et voilà, donc en fait il est à McDonald's pour le moment parce qu'il a un problème de connexion.
Vas-y, balance pas ça.
C'est un peu de bête à l'arrière du behind the scene comme ça.
C'est le contexte.
Voilà, apparemment SFR n'est pas tendre avec les connexions internet.
Non, bah non. Bah. Moi tu dis ça Paracon, mais Paracon ou je sais pas quoi, c'est la convention annuelle de la Parapsychological Association, donc c'est un peu plus long comme titre habituellement.
Et aussi ça a lieu une fois sur deux en Europe et une fois aux États-Unis. Si je...
Oui, aux États-Unis ou hors Europe quoi en fait. Ouais.
Et alors en plus là, c'était un programme combiné avec la Society for Psychical Research.
Donc... Oui, ça va être une chose à discuter parce que un peu au dernier moment, il a été décidé de mixer ça avec ce que la SPR fait chaque année, qui est un congrès international mais qui dure une journée. Et donc là, ça a ramené plus de monde et ça a permis de, vu que ça se passait à Londres, d'avoir les deux organisations qui se croisaient. Donc la SPR, c'est la Société de Recherche Psychique qui est la plus ancienne. Institution hors académie, enfin privée, quoi, qui s'occupe de recherche en parapsychologie.
Oui, enfin, on va en parler après, mais c'est vrai que c'était assez folklorique parce que je rencontrais des gens et alors on se disait quand tu vas faire une présentation, t'es PA ou t'es SPR. On aurait dû avoir un badge, je suis PA, je suis.
C'est ça.
Enfin, ça me surprenait un peu comme question, mais les gens m'abordaient comme ça, c'était assez folk. Mais...
Non, mais ça veut dire quelque chose quand même, quoi.
Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, alors, juste... Enfin, je voulais aussi qu'on parle de notre expérience plus générale d'aller à Cône, aller à Londres et tout ça, on va raconter, mais pour être un peu full disclosure, c'est toi, t'as participé à l'organisation du côté PA.
Oui, ben en fait, je sais que j'étais pas leur premier choix, mais apparemment personne voulait le faire. Ils m'ont demandé d'être programme chair cette année, donc j'étais simplement en charge du programme, pas de l'organisation entière. Hein, il y a tout un groupe comme ça, et donc il y avait un autre programme parallèle qui était celui de la SPR, qui était lui dirigé par le professeur Chris Rowe, et donc on échangeait pour organiser le programme final. Voilà, le but du jeu, c'est que chacun avait ses critères. D'acceptation des articles et de peer review. Et moi, pour m'aider, j'ai donc dû choisir un assistant et donc je t'ai choisi toi pour l'occasion. Hein, c'était sympa.
Ce qui m'a amené à porter le micro pendant tout l'événement.
Voilà, c'est ça, les basses tâches d'esclavage.
Ouais. Bon, finalement, de toute façon, tu avais été choisi par le PA parce que tu es en Europe et puis je suppose que ça a dû beaucoup jouer, quoi, puisque quand ils font aux États-Unis, ils font appel à quelqu'un sur le territoire américain. Et...
Oui, enfin, je pense pas que ce soit le seul critère. Je pense que effectivement, ils prennent d'habitude des jeunes chercheurs, bon, qui ont déjà eu leur thèse, qui sont pas pris dans un truc comme ça. Un peu, tout le monde va s'y coller une fois dans sa carrière. C'est un peu le but du jeu, quoi.
Et donc voilà, au niveau du voyage lui-même, moi je suis allé avec mon épouse et mon frère et mon fils et on s'est retrouvés donc à Greenwich. Hein, c'était à Greenwich. Je dois avouer que c'était vraiment le cadre est vraiment très agréable. Hein, les universités britanniques, elles ont de la gueule, ça c'est.
Clairement.
C'est une université qui est célèbre apparemment pour sa branche nautique, navigation. Enfin, on n'a pas vraiment eu le temps de faire de la visite de l'UNIF. Enfin. D'après mon guide touristique. Mais c'est vrai qu'on est au bord de la Tamise.
Ouais, ouais, magnifique.
C'était vraiment très.
Et puis on était au niveau du méridien zéro, quoi. Donc qu'on pouvait voir depuis la fac, au niveau de l'observatoire. Donc voilà, c'est un lieu un peu mythique comme ça.
Ouais. C'est vrai. Et donc, c'est vrai que malheureusement, évidemment, comme c'était très chargé comme programme, on n'a pas tellement fait.
Oui, c'est ça, et peu de temps pour ça. Et pourquoi ça a été à Greenwich ? Donc, il y a plein d'universités en Angleterre qui accueillent des enseignements ou des unités de recherche sur la parapsychologie et la psychologie anomalistique. Et Greenwich, depuis, je crois, 2009, a engagé David Luke, qui a été un ancien président d'APIE, qui est un psychologue, donc senior lecturer actuellement, et qui, donc, depuis des années, fait des enseignements et des recherches. Alors, il a quelques collègues qui bossent avec lui, pas beaucoup, mais sur Greenwich. Donc, du coup, ils ont cette ouverture. Surtout qu'en fait, une chose rigolote, c'est que David Lux, en outre, fait d'armes, c'est les recherches sur les psychédéliques, hein, qui sont un peu remis au goût du jour. Et depuis 3 ans, il organise ce qu'il appelle la Breaking Convention, qui réunit, je ne sais plus, plus de 200 intervenants. C'est un monde de fous, et qui se passe aussi à Greenwich. Et c'était donc la semaine avant le congrès de la PIE.
Oui, quand je suis arrivé pour chercher mon badge, il était là et il était en train d'expliquer qu'il était encore un peu sur les genoux. Il a eu deux grands événements. C'est vrai que c'était deux grands événements qui suivent pour lui. Ce qui est assez marrant, je crois que son nom, c'est vraiment Luke comme dans Star Wars. Hein.
Oui, tout à fait.
On doit lui faire beaucoup de vannes à ce sujet.
Oui, oui, et puis surtout qu'il travaille sur la chance aussi beaucoup. Donc, Luke, pas très
loin. Oui, oui, ça, j'ai même pas pensé. Oui, moi, je suis plutôt Star Wars. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est spécialisé dans les drogues et il a. Enfin, psychédélique, et il a fait un certain nombre de publications sur drogue et paranormal aussi. Hein.
J'ai vu que c'est tout à fait. Chose, ouais.
Et ben voilà, je crois qu'on a un peu présenté le cadre. Et alors, l'événement en lui-même. C'était 3 jours, hein, c'est ça ? 3 jours.
3 jours et demi, ouais. 3 jours et demi, c'est. Assez. Moi, du côté de l'organisation, un peu pour revenir un peu en amont, on était prêt à lancer la convention, puis la SPR s'est greffée dessus, ce qui m'a un peu compliqué la tâche, mais c'est dans l'idée qu'il y aura plus de monde, donc plus d'échanges, une variété de points de vue, donc c'était encourageant de ce côté-là. Après, comme tu le sais, on a travaillé là-dessus ensemble. On a reçu énormément de soumissions de tous niveaux. Et pour expliquer un petit peu la procédure, la PIE, elle a une exigence assez forte qu'on voit rarement, c'est qu'elle demande l'article complet. Hein, si tu veux faire une communication de 10 minutes, il te faut un article complet de 5 à 10 pages et qui est ensuite envoyé en aveugle à deux réviseurs. Donc nous, on les choisissait parmi ceux disponibles. On a eu plus de 60 réviseurs différents, donc vraiment avec tous les domaines d'expertise. Et voilà, ça se faisait avec des allers-retours. Et on a refusé des communications qui étaient faites par des membres de la PIE, même un ancien président de la PIE qui a vu ces deux communications refusées. Donc il y avait quand même un bon niveau de ce côté-là. Le travail était quand même, je trouve, assez bien fait. Ça a pris des mois, mais ça s'est bien tenu. Et au final, donc c'était vers le mois de mai, on a dû intégrer au programme qu'on avait un peu dessiné les 20 communications qui avaient été acceptées par la SPR. Et là, la SPR, leur façon d'accepter, c'était beaucoup moins compliqué. Il suffisait d'avoir un abstract, donc une centaine de mots, jusqu'à 500 mots. Et ils n'avaient pas vraiment de peer review. Ils avaient un comité d'une dizaine de membres historiques de la SPR qui disaient si ça passait ou pas. Je ne sais pas s'ils ont vraiment refusé des choses. En tout cas, ils ont laissé passer des choses que nous, on aurait probablement refusé du côté de la PIE.
Oui, enfin, je ne sais pas si tu veux rentrer plus là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence de niveau entre les... Donc les communications s'alternaient plus ou moins.
Oui, c'était une demande qu'eux avaient, parce qu'au départ, comme ils se sont greffés un peu tard, on leur avait proposé de surtout occuper la première journée. Hein, mais ils avaient accepté dans un premier temps, puis finalement, ils ont préféré que ce soit réparti sur tout le colloque, ce qui était finalement plus dans l'idée des échanges de points de vue. Donc c'est vrai que la SPR, c'est une société historique qui est quand même plus marquée dans l'intérêt sur les questions de survie. Malgré tout, beaucoup de membres de la SPR sont aussi membres de la PIE et réciproquement. Donc c'est pas toutes les communications qui n'avaient pas le niveau. Par exemple, Caroline Watt, elle est passée du côté SPR pour présenter sa recherche sur les rêves prémonitoires. C'est une recherche qui est publiée dans des revues mainstream. Enfin, voilà, il y a des choses qui ont tout à fait le niveau, mais certaines sont un peu en dessous, quoi.
Oui, tout à fait. Et oui, pour expliquer, je pense c'est assez intéressant, parce que dans le dernier numéro de la PIA, il y avait un article qui expliquait finalement l'idée de la PIA de demander que des articles complets. C'est, eux, ils ne publient pas les articles complets, les abstracts seront publiés dans la revue de la PIA. Mais l'idée, c'est que les gens qui soumettent un article, ils espèrent qu'ils soumettront quand même l'article dans une autre revue scientifique.
Oui, c'est une sorte de pré-peer review, parce que c'est déjà du niveau d'une revue mainstream, même, je dirais. Hein. Donc les auteurs sont obligés finalement d'améliorer beaucoup leur travail, ce qui est vraiment un plus dans la communication et dans la publication ultérieure. Et donc à un moment, ils publiaient les articles complets dans les Proceedings, Et c'était une catastrophe parce que ces proceedings n'étaient pas diffusés du tout. Donc du coup, par exemple, dans des méta-analyses de paradigmes expérimentaux, les chercheurs hors du champ parapsy propre n'arrivaient pas à mettre la main sur les articles, ce qui était une catastrophe. Donc c'est pas, ça ne se peut pas dans un champ scientifique d'avoir des articles aussi inaccessibles. Donc voilà, c'est un encouragement à la publication et un encouragement à la publication mainstream par le même temps. Ouais, ouais. Et encore autre chose concernant la PIA, parce que je peux remonter un petit peu aussi pour l'idée, c'est quoi la Parapsychological Association, mon anglais est vraiment horrible, ça a été créé en 1957 et ça répond à une sorte de besoin qui a été justement, et c'est là que ça blesse un petit peu, qui a été d'augmenter le niveau, de figurer un standard dans le champ, de professionnaliser le corps des parapsychologues, qui ne sont pas des parapsychologues voyants, qui ont des capacités, non, qui sont les chercheurs en parapsychologie. Et c'était pas la première fois que ça avait été tenté. La première fois, en fait, c'était vers 1927. Il y avait eu un congrès international de sciences psychiques qui s'était d'ailleurs tenu à Paris dans un amphi de la Sorbonne. Et là, les organisateurs, ils avaient été un peu désespérés de voir accepter des communications de niveau trop hétérogène. Et donc, ils avaient décidé de créer un comité international pour l'organisation des conférences et congrès, qui était basé d'ailleurs à Genève, et qui comportait que en fait, des universitaires dans son comité. Et à l'époque, donc 1927 jusqu'à 1930, ça avait fait un tollé incroyable, parce que finalement, ce qui allait se passer, ce qui était prévu, c'est qu'il y ait deux colloques parallèles. Un organisé par ce comité-là de haut niveau, et le colloque international normal. Et là, en fait, ça déchirait trop la communauté. Tu vois, un petit peu une discrimination entre des amateurs et des professionnels. Ça c'est pas du tout passé à l'époque où il fallait, je pense, encore rassembler du monde, légitimer le champ. Et donc, ça a été vraiment enterré en 1930. Mais c'est quelque chose qui a manqué. Et après-guerre, quand la parapsychologie est devenue vraiment académique aux États-Unis, ils ont pu lancer ce truc-là en 57. Donc, ils ont tout de suite mis en place les congrès annuels, un système de présidence tournante, un niveau de recrutement au niveau PhD pour les gens qui veulent être membres. Enfin, voilà, vraiment sur une copie des autres organisations scientifiques. Et en 69, avec ce travail-là, ils ont pu être reconnus et intégrés dans l'Association américaine pour le progrès des sciences, donc cette association qui regroupe tout l'établissement scientifique, qui publie la revue Science, et donc ils y sont toujours depuis 69.
Oui, donc là, donc en juillet, il y avait un peu pas mal de noms connus, enfin pour les gens qui s'intéressent au domaine, évidemment, pratiquement tous les... Ouais, enfin, il y a pas mal des grands players qui étaient là, quoi, des gens importants.
Bon, il manquait les plus médiatiques, c'est-à-dire Rupert, ouais. Sheldrake et la bohète anglais, il n'était pas là. Parce qu'il est vraiment en marge du milieu parapsy, il intervient très rarement. Dean Radin, Daryl Bem et certains américains comme ça n'ont pas fait le déplacement parce que c'est quand même assez coûteux tous les ans. Et donc voilà, il y avait la fine fleur européenne et quelques américains.
Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai que c'est un bon résumé. Enfin, c'est vrai. Oui, bon, je peux comprendre que depuis les États-Unis, ils n'aient pas forcément envie de faire le déplacement. Et en fait, moi, ce qui m'a étonné, c'est quand même que Chris French soit pas là, alors qu'on était quand même à Londres aussi. Bon, Richard Wiseman, s'il veut pas se faire lyncher, je comprends qu'il soit pas venu. Mais
oui, Chris French, il a déjà été membre de la PIA, ça lui est déjà arrivé d'intervenir. Là, il a rien proposé. Il y a certains des gens qui travaillent avec lui. Comment il s'appelle encore, Paul Rogers, qui travaille avec lui à l'unité d'anomalistique, lui il était là, il était présent, donc il y avait quand même son unité qui était représentée. On peut penser ça. En tout cas, ce qui est sympa cette année, c'est qu'il y a aussi la grande convention des sceptiques qui va se faire à Londres en septembre, si je ne me trompe pas. Et ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, Caroline Watt, elle peut intervenir dans ce congrès pour présenter les 30 ans des recherches à la chaire Koestler de parapsychologie de l'Université d'Édimbourg. Donc là, c'est bien qu'il y ait quand même des gens qui transitent sur les deux congrès. D'ailleurs, je ne sais pas si tu y vas, toi.
Non, j'y vais. Oui, non, j'y vais pas parce que c'est vrai que j'ai. Bah voilà, j'ai dû faire un choix drastique, comme aller à Londres deux fois comme ça dans un temps si court pour mon budget, c'était pas faisable.
Ah ouais.
Mais surtout que là, ouais, voilà, les deux. Mais c'est vrai que la convention sceptique, c'est aussi, il faut payer le billet d'entrée, donc ça, c'est pas donné forcément. Mais c'est dommage parce que c'est vrai que apparemment il y aura un fort programme de psychologie animalistique organisée par Chris French, puisqu'on est un peu... Je pense que finalement, c'est ça, il est peut-être... Lui aussi, il était tellement concentré sur l'organisation de, la, de l'événement sceptique qu'il a eu du mal à faire les deux, probablement.
Ah oui, je sais, probablement, ouais.
Et, oui. D'ailleurs, tant que j'y suis, toi, tu sais, c'est un peu annexe, mais je relisais, je regardais sur le site de l'API pourquoi Richard Wiseman avait été renvoyé de l'API. Enfin, ils ne mettent pas tellement de détails en fait sur le site, ils mettent juste que, qu'il y a eu un vote pour misconduct ou un truc comme ça. Tu aurais plus de détails sur pourquoi Richard Wiseman s'est fait. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis ou c'est juste une sorte de vote de...
Je ne sais pas. Ce serait possible, mais je ne sais pas parce que, à ma connaissance, mais je ne suis pas sûr, il n'a jamais été membre de l'API, mais je ne l'ai jamais vu membre en fait. Enfin, moi, je ne suis pas depuis si longtemps que ça, mais. Je ne sais pas historiquement s'il l'a été. Il a peut-être été membre de la SPR ou quelque chose comme ça. Après, il a intervenu à des congrès de l'API, mais je ne sais pas exactement à quel moment ça a commencé à déconner. C'est vrai qu'il était pris dans plusieurs controverses, mais en tant que tel, avoir un point de vue comme ça, ça n'empêchait pas. Je veux dire, jusqu'en 2006, et même encore après, il faisait des travaux avec Dean Radin, avec Stephen Schmidt, pas avec Stephen Schmidt, avec Marine Schlitz, avec Caroline Watt. Donc, il avait des travaux avec les autres, je dirais. Et puis là, depuis, je sais pas, à un certain moment, il se désintéresse quand même. Il désinvestit un petit peu le champ parapsy. Depuis 2010 même.
J'ai quand même plus recherché. Enfin, tu regarderas un peu sur les différents sites de référence, entre autres. Enfin, il y a plusieurs sites. Je pense que je ne sais plus si c'est sur le site de la PA ou sur le site de critique des sceptiques là qui s'appelle Sceptique des sceptiques. Je ne sais plus le site de, ouais. Derek, là, où il y a un texte où ils disent que non seulement Charles Wiseman était membre de la PA et de SPR, mais donc il s'est fait éjecter de la PA par vote. Donc la PA l'a radié.
Ah oui, d'accord.
Et la SPR, il y avait une motion pour le radier, mais il a démissionné avant qu'on ne le radie, quoi. Donc il n'y a pas eu de radiation effective, quoi.
Oui, c'est.
Bon. C'était juste.
C'est dommage. Que... Oui, je savais pas tout ça. C'est vraiment, c'est dommage parce que c'est quand même bien quand il y a. Quand il y a le dialogue qui est maintenu entre les deux, quoi.
Ouais. Et comme ils ne mettent pas plus de détails, j'étais juste curieux sur vraiment s'il y avait des raisons. Tu vois, si c'était l'affaire avec JT et Sheldrake, ou s'il y avait vraiment des raisons précises.
Non, généralement, c'est... Généralement, en fait, quand... Enfin, je sais pas dans ce cas-là, mais je dirais que parfois, c'est des raisons qui ne sont pas forcément publiques ou médiatiques, qui n'ont peut-être pas à voir avec les échanges de points de vue scientifiques, mais... pour des choses qui sont faites derrière qui sont pas toujours bien. Je dis pas que c'est le cas de Wiseman, mais quand c'est pas public comme ça, je sais pas.
C'est des trucs des tensions interpersonnelles, quoi. On peut imaginer, quoi.
Oui, alors par contre c'est vrai que c'était plutôt le ralliement dans ce congrès-là de l'API, puisque c'était les 30 ans donc du KPU, et puis qu'il y a eu cet hommage à Robert Morris, hein, le professeur qui est mort en 2004 et qui a été le premier professeur de la chaire Kessler. Et c'est vrai que Maurice était à la fois le directeur de thèse de Richard Wiseman, de Chris Rowe, d'énormément d'autres, de Caroline Wack, qui a repris un peu la suite. Et donc, on a eu droit à une soirée avec beaucoup d'hommages, des témoignages personnels assez marrants, assez émouvants en même temps. Ça donnait vraiment envie de le connaître. Je crois que toi, tu l'as croisé. Moi, je n'ai pas eu cette chance.
Ah non, pas du tout, non, je ne l'ai pas croisé en fait.
D'accord.
Non, c'est vrai. En fait, un de mes, c'est pas mon directeur de thèse, mais mon directeur de DEA était allé à Édimbourg et il l'avait rencontré, mais moi, je n'ai pas eu cette chance. Non.
D'accord, ouais. C'est vrai que ça donnait envie parce que tout le monde disait que c'était déjà quelqu'un qui avait un humour incroyable et puis qui était vraiment capable de discuter avec n'importe qui. Et qui intervenait au congrès sceptique, au congrès mainstream, qui avait vraiment pas de problème pour faire avancer la parapsychologie dans les milieux où d'habitude elle est mal vue, quoi.
Oui, j'ai plus la citation en tête exactement. On le cite souvent sur l'idée qu'il insistait sur le fait qu'il fallait trouver les explications normales avant de.
Tout à fait, ça c'est l'approche du non-psy, ce qui ressemble au paranormal mais qui n'en est pas. Et qui est aussi important à étudier que ce qui pourrait être vraiment paranormal.
Oui, au niveau des interventions, Mes impressions en général, bon, le niveau général était très bon, j'ai trouvé. Même si évidemment, comme on l'a déjà mentionné, il y avait des trucs de la SPR. Entre autres, la présentation sur les chiens télépathes, ça c'est. Face à la nana qui parlait aux chiens par télépathie, c'était assez hard, quoi.
C'était hard. Bah, viens, on en parle un peu parce que celle-là, elle me reste aussi en travers de la gorge. Alors, je relis l'abstract et tout parce que je comprenais pas comment ça avait été accepté. Et effectivement, c'est peut-être la présentation qui fausse le truc. Parce que la nana, donc, fait de la communication animale. Elle est elle-même communicante animale. C'est quand même un problème de société parce qu'il y a plein de gens qui se revendiquent de ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont jusqu'à tester un peu leurs revendications. Donc là, finalement, c'est pas mal ce qu'elle a tenté. Elle a essayé de communiquer avec les chiens de propriétaires pour déterminer leurs besoins, leurs difficultés. Donc, elle a vraiment l'impression que les chiens envoient des messages en langage humain dans sa tête, quoi. Donc, c'est vraiment, peu importe l'espèce. Bon, là, c'était le chien familier, le chien domestique, disait-elle. Mais la façon dont elle le présentait, elle avait l'air vraiment convaincue et tout. Et heureusement qu'à la fin, quelqu'un lui a dit, mais votre truc est pas scientifique. Elle l'a reconnu que c'était une étude exploratoire. D'ailleurs, c'est dans le titre de son intervention, c'est ça. Mais derrière, elle a vraiment pas mis en place la méthodologie avec un groupe contrôle pour tester véritablement ses revendications. Donc, c'était une introduction. Elle disait, si ça peut amener les gens à s'intéresser à ça, c'est bien. Voilà, mais c'était pas vraiment adapté par rapport au niveau des autres communications. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, et puis je pense qu'au niveau de la manière dont elle a présenté les choses, je pense que s'il avait vraiment insisté dans sa présentation dans le départ en disant c'est de l'exploratoire, je sais bien que ça ne prouve rien, mais enfin...
Elle a pas pris assez de précautions oratoires, quoi.
Ouais, c'est clair, clairement, quoi. Ouais, voilà, enfin, on a peut-être parlé de celle qui nous avait semblé la pire.
Ouais, mais il y a plein de gens, hein. Y a plein de gens qui n'ont pas compris, quoi. Enfin,
mais sinon, qu'est-ce que j'avais eu comme impression générale? Parce que moi, c'était ma première conférence du genre. Bon, évidemment, on peut comparer avec des conférences sceptiques, mais c'est très, très différent. Parce que les conférences sceptiques, il y a une énorme diversité de sujets chez les sceptiques. Du coup, souvent... Quand on va dans un colloque sceptique, on va avoir une conférence sur le paranormal. Généralement, enfin, je sais pas, celle où je suis allé à Berlin, c'était R. Heyman qui l'avait donné. Le reste du temps, on parle de tout autre sujet. Donc, tandis qu'ici, c'est à la fois beaucoup plus concentré, puisqu'on parle vraiment que du paranormal. Alors que, bon, ça dépend qu'on traite souvent sur mon podcast, mais finalement, les sceptiques se désintéressent plus qu'autre chose.
C'est sûr que l'objet reste finalement le même, mais la façon de tourner autour est très, très différente. On a eu vraiment... Et puis on le voit avec le titre des sessions, des trucs qui sont plus sur la croyance, les corrélations avec des questionnaires, des choses comme ça, des trucs plus anthropologie, d'autres plus expérientiels, d'autres plus historiques, expérimentaux. Enfin, moi je trouvais qu'on tournait bien autour de la chose, quoi.
Oui, c'est très l'aspect pluridisciplinaire est très frappant, je dirais. On avait l'impression d'assister, d'un point de vue méthodologique ou même disciplinaire, on passait vraiment d'une discipline très... Enfin, parce qu'il y avait la part anthropologie qui était là, les anthropologues, il y avait des choses qui auraient probablement fait frissonner bien les sceptiques, c'était la psychanalyste qui était venue de New York aussi.
Tout à fait.
Mais c'est vrai qu'il y avait une vraie il y avait l'avocat qui a fait un truc un peu enfin, on peut en parler mais un peu bizarre sur le droit aussi. Il y avait des philosophes à la conférence sur Kant.
Oui.
Il y avait vraiment une vraie diversité qui ressortait de l'événement, quoi.
Bah, toi tu parles de pluridisciplinarité, moi je dirais c'est plus transdisciplinaire. C'est toujours comment cet objet-là du paranormal nous invite à réinterroger un peu la façon dont on travaille dans notre discipline de départ, quoi, comme si ça transcendait la discipline et de manière aussi à rencontrer les autres disciplines. Qu'est-ce que les autres disciplines peuvent m'apporter sur le regard que j'ai sur mon objet? Et c'est pour ça que c'est très amusant de voir des anthropologues venir avec des stats, venir avec, je sais pas, ouais, des questionnaires, et puis une tâche expérimentale derrière. Voilà, ils sont amenés à sortir un peu des méthodos habituels propres à leur discipline.
Et d'un côté, enfin moi j'adore cet aspect-là, hein, mais en même temps c'est vrai que ça rend l'évaluation des choses difficiles, quoi, parce qu'on brasse tellement large que Juste pour donner un exemple, par exemple, moi j'ai fait la philo en plus de la psycho. Hein, donc par exemple, j'étais intéressé par l'intervention sur Kant, mais je suis pas du tout un spécialiste de Kant, quoi. Enfin, c'est loin de là. Et du coup, j'ai trouvé la présentation intéressante. Et alors, j'étais assez surpris parce que dans la salle, il y avait du public qui visiblement maîtrisait nettement mieux Kant que moi, parce qu'il y avait des questions assez pointues qui étaient posées. Je me suis dit, ils sont venus juste pour ça ou alors c'est des parapsychologues qui lisent Kant comme. Enfin, j'étais vraiment étonné par le niveau assez pointu des questions, quoi. Mais voilà, du coup, moi j'avais trouvé la conférence intéressante en tant que quelqu'un ayant une formation de philosophe, mais j'ai pas du tout le niveau pour porter un jugement sur ce qu'elle présentait, quoi. Parce que pour ça, il faut que je maîtrise beaucoup plus Kant, quoi. Et en gros, c'est l'impression que j'ai sur beaucoup de conférences. En fait, c'est tellement vaste et large que c'est difficile de.
Ouais, tout à fait. J'ai un peu l'habitude. Si tu veux, c'est ma quatrième conférence sur Kant et le paranormal que je vois avec des intervenants différents. Donc, j'ai des points de repère. Mais c'est clair que il y a de quoi décrocher. Hein, sur une matière ou sur une autre, hein, d'ailleurs.
C'était un peu une des impressions fortes qui ressortait de l'événement pour moi. Parce que c'est vrai que d'habitude, je fais des colloques de psycho ou comme ça, je sais pas, de psycho de la religion, où c'est quand même beaucoup plus unidisciplinaire, quoi. Hein, ou de philo aussi que je fais, c'était beaucoup plus unidisciplinaire, quoi. Ici, c'est vraiment. Ça part dans tous les sens, un peu comme ça. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça rend l'évaluation des. Enfin voilà quoi, parfois on a une conférence et on se dit il y a deux personnes dans la salle qui sont compétentes. Par exemple pour Kant, on se dit il y a combien de gens dans la salle qui sont compétents pour évaluer critiquement ce qu'elle est en train de raconter, quoi.
Oui, c'est vrai, mais bon, c'est... Alors au niveau du peer review, on trouve des gens qui expertisent, donc qui peuvent dire un peu si ça tient la route ou pas. Mais bon, là c'était une confespère sur Kant. Après, dans les questions, dans les remarques qui lui étaient faites, même en privé, j'ai entendu des gens qui lui ont donné des références pour qu'elle pousse un peu son travail. Là, je crois que c'était une étudiante en thèse, donc c'est pas mal qu'il y ait aussi des gens qui sont à un niveau peut-être c'est encore des choses en construction, je pense, pour elle. En tout cas, c'était un truc en construction, c'était une espagnole. D'ailleurs, son anglais est en construction, mais
c'est pas évident avec la juste parce que
mais ouais. Ouais, il y a un peu. Je pense que voilà, ça nous amène. Alors, on peut se désintéresser, mais quand on est un peu curieux de tous les abords, parce que quand il pense, c'est quelqu'un qui a fondé un peu les catégories de la raison qu'on va utiliser des siècles après. Et quand tu sais que lui-même, il avait une attitude extrêmement ambiguë par rapport au paranormal, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le Kant qu'on a bien voulu garder, et de l'autre, un Kant qu'on mettrait du côté des pseudo-scientifiques. Et ça, c'est très intriguant, avec tout sa description d'un monde surnaturel, en parallèle de son monde rationnel. C'est quand même intéressant de voir un peu la contre-histoire de la rationalité.
Ouais, c'est clair. Parce que bon, en anglais, on dirait il est arguably, enfin il est, on pourrait considérer qu'il est le plus grand philosophe contemporain, enfin moderne, quoi. C'est vrai qu'en tout cas son influence est énorme, quoi, sur la philosophie. Il y a un avant et un après Kant, quoi. Mais sinon, pour parler du reste, ce que je pourrais dire encore, moi, c'est que puis je te laisserai un peu donner tes impressions aussi, mais sur d'autres choses, qu'est-ce qui t'aura frappé. Mais moi, je dirais quand même que il y a des conférences évidemment qui, enfin. J'étais frappé par le fait qu'il y a des conférences qui auraient vraiment pu être faites telles quelles dans les milieux sceptiques sans trop de difficultés. En tout cas, la première demi-journée évidemment sur la croyance au paranormal, je pense que ça n'avait absolument aucune difficulté.
Ou même, il y en a eu deux des demi-journées sur les croyances paranormales, celle à laquelle tu as participé également. Enfin,
oui, c'est vrai. Ouais. Et alors tu avais...
Avec l'alien dans la forêt, là, la photo de l'alien.
Ouais, la conférence sur l'alien dans la forêt.
Elle était publiée dans Perception, déjà.
Oui, j'ai vu l'abstract passer, ouais. Et Oui, il y avait aussi la conférence assez intéressante sur le médium allemand. Alors là, évidemment...
Ah oui, Kemoge.
La présentation était très critique de ce médium allemand, mais en même temps, tu me disais, mais le gars qui présente, lui, est un convaincu des médiums du
passé. Voilà. Du passé,
ouais. Donc, en fait, il pourrait faire sa présentation quasiment. Enfin, il pourrait la faire telle quelle chez les sceptiques, je pense, mais c'est l'individu qui a des positions qui ne passeraient pas, probablement. C'était assez intéressant.
Oui, mais en fait, c'était pas les médiums du 19e, mais plutôt ceux du 20e, c'est-à-dire à partir du moment où dans des laboratoires, on a pu équiper des appareils, notamment infrarouges, pour voir dans le noir, pour prendre des photos, pour avoir des contrôles électriques, des mouvements du médium, des choses comme ça. Pour lui, il est assez fan de ça historiquement, parce qu'on est arrivé à un niveau d'études en laboratoire de la médiumnité physique, hein, c'est ce qui l'intéresse, c'est les mouvements d'objets, l'ectoplasmie, qui lui semblait quand même un progrès. Et là, il voyait qu'on avait régressé, c'est-à-dire qu'il y avait un nouveau médium qui disait faire des ectoplasmes. Alors c'est tellement intéressant qu'on va le voir comme ça et qu'on ne lui en demande pas trop, que de toute façon, il ne veut pas se soumettre aux contrôles qui sont exigés. Donc, ce qu'a fait quand même Peter Mulack, c'est qu'il a joué le jeu, il l'a invité, il a été à plusieurs séances, il a accepté les conditions, puis il a demandé de plus en plus de contrôle, et à un moment, il a vu des choses qui lui semblaient trop louches, qu'il ne peut pas dire que ce sont vraiment des fraudes, mais qui lui suffisent pour dire « moi, ça ne m'intéresse plus ». Ça ne m'intéresse plus dans ces conditions-là de travailler avec un tel médium. Et ça, c'est vrai que ça divise la communauté parapsy, parce qu'il y a toujours cette recherche d'une sorte d'équilibre entre la production et le contrôle. C'est-à-dire, il faut aménager la situation de manière à reproduire le phénomène que la personne diffère. Il faut quand même suivre ce qu'elle diffère. Si elle dit qu'elle a besoin d'être dans le noir, de faire une prière, de chanter pendant le truc, il faut le faire. Mais après, si ça, le noir, le chant et tout, ça empêche d'avoir des contrôles de bonne qualité, ça ne va pas. Il faut trouver un équilibre optimal entre les deux. Et là, ça a divisé parce qu'il y a d'autres chercheurs en parapsy qui sont plus du côté... encore un accueil un peu trop ouvert, peut-être trop crédule aux revendications de ce médium-là. Donc il a vraiment essayé de poser les choses.
Oui, d'ailleurs, dans le public, là, il y a des réactions un peu... Oui, enfin, évidemment, il y avait visiblement dans le public des fans de ce médium-là qui essayaient de...
Ben, en fait, ouais, ce qui a été dit, c'est qu'il n'a pas trouvé un flagrant délit de fraude. Hein, c'est ce qui est vrai. Parce que pour trouver un flagrant délit de fraude, il faudrait avoir des moyens de contrôle, il faudrait prendre une photo, il faudrait pouvoir filmer, faire quelque chose comme ça. Il a même pas eu l'occasion de faire tout ça, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la séance, tous les participants étaient dépouillés de tous les appareils électroniques ou en métaux. Donc voilà, c'était très, très gênant. Donc il a vu des choses qui, lui, nous semblent louches, mais qui sont de l'ordre du témoignage, et d'autres ont des témoignages où ils ont vu des choses qui n'expliquent pas, mais pareil, ils n'avaient pas les conditions encore de contrôle suffisantes. Mais voilà, ça montre que les mêmes débats sur l'ectoplasmie des années 1920-1930 sont encore d'actualité. La question, elle n'est pas résolue tant qu'il y a des gens qui revendiquent. Voilà.
Oui, moi j'ai un peu mentionné les points qui m'ont frappé du colloque. Est-ce qu'il y a des choses qui toi...
Déjà, je voulais t'interroger comment t'as eu des retours sur ta présentation, parce que quand même, t'as vu, t'as pu parler du phénomène ufologique dans un congrès de parapsie, en lien avec la psychopatho. Comment t'as reperçu l'accueil qui a été fait?
Oui, c'était assez intéressant sociologiquement pour voir comment ça allait se passer. Parce que c'est vrai qu'au départ, moi, quand j'étais pas convaincu de présenter un papier sur les ovnis dans un truc de parapsy, parce que bon, généralement, on définit le psy comme l'étude, la parapsy comme l'étude du psy. Donc moi, c'est vrai qu'il y a des gens qui font des liens entre les ovnis et le psy, mais évidemment, c'est pas fort mon cas. Ben, finalement, ma présentation était passée. Alors, les réactions étaient pas mal. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé. En fait, c'est vrai que par rapport au Kaipan, le truc ufologue auquel j'étais allé l'année dernière, les réactions étaient beaucoup moins hostiles, je pense. ça s'explique par différentes choses, entre autres qu'au Kaipan, évidemment, j'ai une réputation qui me précède de pile sceptique, et puis c'était une convention d'ufologues qui sont beaucoup plus investis dans l'idée qu'il y a vraiment de l'extraterrestre derrière le phénomène OVNI, donc forcément, les enjeux ne sont pas les mêmes, je pense. J'ai beaucoup, entre guillemets, mieux vécu ma présentation, dans le sens où, effectivement, j'ai eu l'impression d'être devant un public beaucoup moins hostile qu'au Kaipan. Et je pense que juste après, j'ai eu l'occasion, et Paul Devereux, qui est quand même un nom dans le domaine, est venu me parler. Je ne savais même pas qu'il était là avant qu'il vienne nous parler, d'ailleurs. Oui, il a entre guillemets fait un chouïa de critique de ma présentation, mais en gros sa critique c'est que je n'ai pas mentionné son nom parce qu'il était là.
Oui, c'est voilà, un peu, c'est vraiment le style de Devreux. Ça, ouais.
En gros, il était largement d'accord avec moi. Il m'a dit, mais vous n'avez pas mentionné mon livre, un tel. Alors, je l'ai commandé, je l'ai lu après.
Bah, c'est bien, c'est constructif.
Ouais, ça m'a donné une référence en plus. Et ouais, je me dis, je le connaissais de réputation, Devreux. Je savais que c'était pas un tenant de l'hypothèse extraterrestre. Donc, en lisant son livre, oui, en fait, il pense que le modèle sociopathique, enfin, il est largement d'accord avec moi. Bon, il pense qu'il y a peut-être de la foudre en boule derrière certaines observations. Enfin, ce qui est tout à fait possible, même. Enfin, en fait, il a quasiment ma position, donc c'était vraiment pour. J'ai vraiment eu l'impression que c'était pour dire, mais vous êtes d'accord avec moi et vous ne me citez pas.
Oui, c'est ça, oui. Ouais.
Votre livre est. Enfin, maintenant j'ai été voir après sur Wikipédia, son livre est sorti au début des années 90.
Ouais, c'est
même ça. Pas à moment là, quoi. Enfin, bon. Donc c'était assez positif, voilà.
Ouais, d'accord. Bah, moi, les moments forts que j'ai trouvés, ça a été. La présentation de Dick Bierman, hein, pour un papier qu'il a fait avec Spottiswoode et Bilge, qui était sur les pratiques de recherche questionnables, enfin je sais pas comment tu traduis ça bien, dans les recherches en parapsychologie. C'est-à-dire que c'est une question qui affleure maintenant dans la psychologie mainstream. À quel point on peut expliquer les résultats obtenus en mainstream par des petites touches qui les gens trouvent que c'est pas si grave que ça méthodologiquement, mais en fait ça invalide une partie des résultats. Alors il y a des billets qu'on connaît qui sont les fonds de tiroir, des choses comme ça, mais il y a des petites choses comme l'arrêt intempestif ou la rallonge au niveau des nombres de participants, du nombre d'essais, les pilotes qui sont transformés en expériences qui sont intégrées si elles sont positives. Enfin, des petites choses que longtemps ont été reprochées à la parapsychologie, qu'ils le sont maintenant à la psychologie mainstream, et on voit que ça fait des dégâts. Et là, ça a été réintégré en parapsy à partir de la. Il a fait ça à partir de la base de données Ganzfeld. Et c'était très intéressant parce qu'il il a essayé de chiffrer les critiques qui sont faites à la parapsy. Voilà, peut-on estimer quelle part d'explication cette pratique malheureuse a? Et ça, c'est quelque chose, il dit, les sceptiques doivent faire ça, parce qu'avoir des affirmations gratuites en disant, voilà, on explique tout ça par un fond de tiroir. C'est trop gratuit. Pour faire de la science, il faut pouvoir un peu quantifier. Et il a quantifié tout ça, et donc la base de données, selon lui, Ganzfeld, qui a un effet de 32% au lieu de 25% au hasard, donc un plus 7 en combinant tous les essais, revient finalement à 27% au lieu de 25% au hasard. Donc un écart de plus 2 qui est toujours donc significatif vu le nombre d'essais, mais qui est quand même largement réduit. C'est quand même intéressant, cette approche-là.
Oui, parce que c'est des critiques qui ne portent pas seulement sur de la fraude, volontaire ou la peur. En fait, c'est ça que là, en psycho, on parle de beautification of data, donc l'embellissement des données, quoi, hein. C'est des pratiques qui ne seraient pas fortifiées, mais bon, on les fait pour avoir des meilleurs. On améliore un peu ces résultats, consciemment ou inconsciemment, en tripatouillant toutes sortes de stratégies qu'on peut employer. Mais c'est vrai que son idée. Oui, c'est ça, c'était d'essayer de quantifier. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, assez intéressant aussi. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est vrai que l'idée est assez fascinante parce que finalement, c'est une façon de voir. Si on dit s'il faudrait avoir une fraude généralisée, en fait, son article tend à dire l'effet est réel, même sauf si on postule vraiment une fraude généralisée en disant, par exemple, je sais pas, tous les chercheurs en parapsychologie. Truc leur donner, évidemment c'est pas plausible de tenir une telle position, quoi. Mais si on considère qu'il n'y a pas plus de fraude en parapsychologie que chez les psychologues ou de d'embellissement des données, à ce moment-là le Ganzfeld continue à avoir un résultat légèrement significatif. Oui, enfin moi j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant. Il faudrait, je pense qu'il faudrait, je m'y connais pas assez en stats pour voir si ça tient à la route son modèle. Mais a priori, je trouvais ça assez convaincant, moi. C'est vrai que j'ai un peu du mal de toute façon à imaginer, parce qu'évidemment on peut toujours dire il y a peu de chercheurs en parapsychologie, donc forcément s'il y a peu de chercheurs, alors et que ceux-là ont l'habitude de frauder, mais au final, mon impression maintenant c'est qu'il y a quand même suffisamment de chercheurs en parapsychologie. Imaginez qu'ils fraudent tous, c'est un peu.
Après suffisamment, c'est vrai qu'une de mes déceptions, c'est que durant ce congrès-là, il n'y a pas eu beaucoup de travaux expérimentaux avec des résultats, même négatifs, mais les travaux expérimentaux, ça a occupé une demi-journée sur 3 jours et demi. Ce qui est relativement peu, hein, pour un champ comme ça, où il y a encore beaucoup, beaucoup à démontrer. Mais c'est que vraiment, j'ai l'impression que c'est compliqué pour les universitaires de faire de la parapsychologie expérimentale parce que c'est très controversé malgré tout. Donc ils s'occupent du paranormal, mais de façon psychologique. Enfin, c'était un peu un débat qu'on avait eu dans le Jeep, hein, parce qu'il ne faut pas tester quand même ces hypothèses, continuer à le faire, même si on n'y croit pas d'ailleurs. Et là, c'est vrai, bon, il manquait d'Aril Behm, il manquait d'Inradine, qui sont des gros contributeurs, des gens comme ça, mais ça se perd quand même, hein, ces travaux expérimentaux, il n'y a pas beaucoup de choses. Hein.
Oui, bref, oui, en même temps, moi, oui, comme tu le dis, c'est pas assez, je pense pas que ce soit particulièrement surprenant. Enfin, je crois que c'est assez. C'est tellement difficile de le faire que. Ouais, il faut avoir les ressources financières d'un côté, et puis.
Oui, tout à fait, oui.
Et puis de l'autre, en même temps, prendre des risques pour sa carrière académique.
Oui, oui.
Enfin, dans l'autre, c'est pas tellement surprenant qu'il n'y ait pas tellement de monde qui le font. Mais c'est vrai, je suis d'accord que c'est dommageable, que c'est pas une bonne chose pour l'état de la recherche, mais ça, c'est sûr, quoi. Surtout, encore une fois, c'est vrai que si tous les trucs viennent même de Dean Radin et tout ça, alors à ce moment-là, ça devient plus suspect.
Oui, c'est ça.
Je suis plus convaincu quand Thomas Raberon présente un truc ou quand d'autres gens présentent d'autres choses. Parce que voilà, plus il y a de diversité de chercheurs, justement, moins c'est plausible qu'il y ait
des effets. Un compérage. Oui, je sais pas, sinon dans les choses qui m'ont intéressé. Bon, c'est vrai, il y avait du beau monde. Il y avait Stanley Krimner qui était là, Erland Dura-Ralson. Il y avait quand même quelques anciens. Des trucs assez sympas. Moi, j'ai beaucoup aimé Walter Van Oekadoo, mais c'était le dimanche. Je crois que t'as pas pu assister. Et puis, il a pas pu aller au bout en 20 minutes. C'est trop compliqué. Il a un modèle théorique complet qu'il élabore depuis 1972. Donc, ça fait un bail. Et il a présenté un peu les dernières nouveautés. C'est un modèle assez intéressant parce que ça présente les échecs en parapsie d'une façon prévisible, c'est-à-dire qu'au lieu de dire bon ben on n'a pas eu le résultat, bon on va faire autre chose, il dit voilà comment ça se fait qu'on n'a pas eu de résultat, voilà comment on peut faire pour avoir un déclin progressif dans les données expérimentales, et il essaie de l'expliquer de façon théorique, il essaie de vraiment d'avoir un modèle avec des prédictions. Encore une fois, c'est le modèle des matrices de corrélation là qu'il a présenté. C'est un peu technique, mais franchement, c'est quelqu'un qui, que j'admire beaucoup. Bah, c'est vraiment très inspirant ce qu'il a fait. Après, c'est vrai que bon, c'est un physicien et un psychologue en même temps qui élabore ça dans le champ de la physique quantique et de la systémique. Je ne prétends pas arriver à tout saisir, mais je trouve que c'était, ça avait de la gueule.
Oui, je pense qu'on a bien présenté. Moi, juste pour dire, au niveau de mon séjour aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux sceptiques londoniens là, qui sont venus me voir pendant les pauses, enfin, en tout cas un à midi et l'autre en soirée, donc c'était vraiment sympa de voir les sceptiques londoniens. Et puis aussi, oui, juste pour... Enfin, c'était juste moi, parce que évidemment, je m'intéresse... Enfin, je m'intéresse au Japon de manière générale. Il y avait les présentations japonaises qui étaient assez
ah oui,
un peu particulières, quoi.
Ah oui, mais comme d'habitude. Est-ce que vous dites un peu qu'est-ce qu'on a pensé
En tout cas, il est très le chercheur est assez marrant parce que
c'est Hideyuki Kokubo.
Oui, j'ai même pas retenu son nom. Heureusement que t'as retenu son nom. Mais il est assez marrant, le gars, parce que c'est vrai que les Japonais sont extrêmement mauvais en anglais. Hein, on
le sait. C'est incroyable, hein. Pire que les Français.
Oui, j'ai souvent des gens qui me disent, oh, t'es prof, quand je parle du fait que je suis prof de japonais, ils me disent, ouais, je vais aller à Tokyo, mais il n'y a pas de problème, ils parlent tous anglais. J'ai dit, mais les gars, vous ne rendez pas compte, les Japonais et l'anglais, c'est l'horreur. Et alors, en fait, dans le fond, il a quand même du mérite d'oser faire ses présentations. Et en plus, au Japon, quand on fait une présentation, normalement, quand on est prof d'UNIF, les gens posent pas de questions. Hein, c'est,
ah oui,
ça fait partie de la culture japonaise.
Absolument.
Alors, je pense que le gars, il doit être au bord de la crise cardiaque à chaque fois qu'il doit faire une présentation.
Alors, je sais pas, parce que tu sais, Hideyuki Kokubo, c'est un des rares qui vient à chaque congrès, même quand c'est aux États-Unis et tout ça, bon, c'est plus proche peut-être pour lui. Il vient à chaque fois, et alors le scénario est toujours le même. Il a un nouvel appareil, une nouvelle technique hyper perfectionnée pour mesurer, je sais pas, la bioluminescence. Là, c'était la formation des cristaux dans l'eau. C'est super. Il a une technique incroyable. Il y a apparemment beaucoup d'essais, tout bien fait. Et puis tu vois une grosse erreur de méthodo, genre. Enfin, vraiment, c'est niveau premier S, quoi. Et donc ça lui est dit dans les questions, mais votre truc là, le sujet, il touche le flacon, s'il touche le flacon, il apporte de la chaleur, ça biaise tout, quoi. Et à chaque fois, chaque année, il dit « Ah oui, merci !» Donc tu te rends compte que peut-être que là-bas, ils oublient de lui dire des trucs comme ça, assez essentiels, ils ne remettent pas assez en cause. Donc il revient chaque année pour peut-être progresser. Donc je trouve qu'il y a un progrès, parce que je l'avais vu déjà en 2010, je trouve qu'il y a un progrès un petit peu dans sa façon de faire, mais il y a encore des lacunes. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il a... C'est pas le seul japonais qui fait de la parapsie, mais ils sont vraiment pas nombreux. S'ils sont une dizaine, c'est bien, quoi. Ils ont une institution là-bas ou deux, mais vraiment, c'est bizarre. On a l'impression qu'ils sont déconnectés de la recherche scientifique normale. C'est bizarre.
Oui, alors, c'est vrai que. Non, donc, c'est vrai que je me disais, oui, il a quand même du mérite, quoi. Parce que c'est vrai que pour eux, c'est quand même vachement dur de faire ce genre de présentation. Et c'est vrai que c'est assez marrant quand dans le public, quelqu'un lui fait les grosses remarques de méthodo. Et puis, je suis même pas sûr qu'il comprenne, parce qu'il a vraiment du mal à comprendre au moment. Je crois qu'il panique tellement au moment de la question-réponse. Je suis pas sûr qu'il comprenne vraiment ce qu'on lui raconte. Et puis alors, évidemment, je crois qu'il utilisait l'expression, c'est l'expérience du concombre. Je crois que c'était.
Oui.
Je manquais chaque fois d'avoir un fou rire. Je dis, appelle ton expérience autrement qu'expérience du concombre.
Non, mais ça c'était l'expérience précédente des autres années.
En fait,
je sais pas si tu connais, il prend un concombre. Donc en fait, c'est finalement c'est une unité végétale. Enfin. Vivante, quoi, si tu veux, qu'il découpe en rondelles. Donc en fait, il va examiner les rondelles séparément, donc ça fait des groupes contrôles qui viennent du même concombre. Et il examine la bioluminescence des concombres influencée par des guérisseurs avec différentes pratiques. Et puis tout ça avec des appareils tout autour pour mesurer, pour essayer de repérer, c'est son grand mythe, et, enfin, je pense que c'est un grand mythe japonais, d'essayer de repérer le chi, quoi, l'énergie vitale qui se dégage et que les guérisseurs manipulent. Donc voilà, ils cherchent à détecter de façon précise, perfectionnée. Donc l'initiative est bonne, après la réalisation moins, mais voilà, c'est un peu son idée.
Oui, c'était juste parce que sa façon de présenter le truc était assez marrante. Et alors, il donnait gratuitement une de ses revues. Donc comme je lui ai parlé, il m'en a passé une. Et c'est vrai que quand tu regardes le bazar, ça vient de... Enfin, c'est fondé par un... Enfin, c'est un groupe, rien qu'à la photo du fondateur, tu vois que c'est un...
Qui lui a parlé en japonais ?
Oui.
Ah, la classe.
Mais, le big boss de son groupe de recherche, il a vraiment la part de tous les gourous de secte japonaise. Je sais que c'est une théorie, tu dis, c'est un groupe vraiment bizarre, il faudrait que je lise plus avant, mais à mon avis, ils font partie d'un groupe religieux. Ça n'empêche l'intérêt de leur recherche, mais s'ils font ça bien, mais c'est assez folklorique, quoi.
Je sais pas s'il fait partie, enfin, il faudrait vérifier. Moi, je l'ai jamais connu comme ça, il a jamais mélangé la spiritualité le truc. Vraiment, il a toujours eu une démarche scientifique. C'est plus des ingénieurs un peu bizarres comme ça, qui se rendent pas compte forcément de tout le contexte de ce qu'ils ramènent. Mais ce que j'avais compris, c'est qu'au Japon, il y a vraiment des fonds pour les recherches, si tu veux, un petit peu sur les capacités exceptionnelles du corps humain, hein, et tout ce qui est la psychosomatique, du chi, je sais pas comment vous dites, mais je crois qu'ils ont des fonds là-dessus. Il y a des sociétés, c'est tellement intégré dans la culture que c'est presque mainstream, tu vois. Je sais pas, là je connais pas assez le Japon, mais c'est l'impression que j'avais.
Moi non, enfin ces aspects-là je connais pas non plus, puisque enfin j'ai jamais vraiment eu de contact de ce côté-là. C'est pour ça que c'était intéressant, mais j'en sais pas beaucoup plus. Mais en fait l'impression que j'avais un peu du groupe, c'est plus un peu comme Ion, tu sais, aux États-Unis, où ils sont un peu le groupe où t'es un peu plus allumé que la moyenne.
Ouais, bah il y a aussi l'université de Meiji. Alors je sais pas comment on prononce, M-E-I en Meiji, oui, qui est un peu plus au nord de Tokyo, hein, qui elle a 2-3 chercheurs qui travaillent sur des thèmes parapsy. Mais c'est aussi vraiment des techniciens. Hein.
Ouais. Ah, c'était juste marrant, vu mon intérêt, je voulais juste mentionner la présence. Il m'a entretenu sur l'heure de midi de sa théorie sur la propulsion des ovnis, donc c'était aussi.
Ah oui, alors ça je connais pas, Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un putain de domaine. On se rend compte. Alors, il y a des gens fringe, enfin, qui viennent présenter. Là, il y en a une avec les cheveux violettes et les. Moi, très londonienne, en fait. Hein, ouais, percée de partout et qui est senior lectureur dans une fac, quoi, un truc comme ça. C'est vraiment la prof décapante. Mais ça attire des gens qui sont curieux, comme ça, qui sont ouverts à plein de choses, à des expériences, à des discussions. Et Alors, ils essaient de suivre la méthode scientifique. Voilà, parfois, je pense que ça rate, hein, mais quand même, il y a une bonne ambiance. Ils sont assez sympas entre eux. Je trouve qu'ils n'ont pas... Enfin, voilà. C'est des personnages.
Oui, il y a des personnages. Ouais. Comme tu dis, en Angleterre, je crois qu'ils sont beaucoup plus libres au niveau des looks des profs. C'est comme Suzanne Blackmore avec ses
voilà, tout à fait, tout à fait.
Alors que chez nous, ça passerait moins bien. En tout cas, en Belgique, ça passerait moins bien.
J'ai pas arrêté de fixer ces piercings et tout. J'avais du mal.
Voilà. Bah écoute, je pense que c'est bon.
Je te dis juste, le prochain congrès, donc il devrait avoir lieu aux États-Unis. Et ça va être un peu la même chose, puisque ce sera mixé avec une autre organisation qui est la Société pour l'exploration scientifique, Society for Scientific Exploration, qui publie le Journal for Scientific Exploration. Je ne sais pas si tu connais cette société, elle fait vraiment dans l'anomalistique globale, c'est-à-dire parapsychologie, certes, mais ufologie, cryptozoologie, tout ce qui peut être un peu des controverses scientifiques, c'est exploré dans un espace de débat scolaire, quoi, enfin vraiment académique. Alors après, avec vraiment des idées, enfin voilà, les plus extrêmes. La même chose qui est discutée finalement par les sceptiques de 120 ans. Et donc on va essayer, ils vont essayer de mixer ça avec, enfin PIE-SSE dans le même congrès. Alors même problème se pose, la SSE a pas du tout les mêmes critères d'acceptation des articles. Et s'est retrouvé qu'ils m'ont demandé encore une fois d'être programme cher. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est une récompense ou pas de mon travail? Je ne sais pas. Ou ils veulent vraiment m'expurger? Je ne sais pas. Mais en tout cas, d'essayer de faire monter un peu le standard pour la SSE et pour le congrès mix. Mais ce sera intéressant parce que, en tout cas, je pense pour des sceptiques, il y aura la possibilité d'intervenir sur tout le champ du grand paranormal, vraiment tous les aspects. Là, tu ne seras plus du tout seul, je pense, à parler d'ufologie. Et il risque d'avoir des échanges. Vraiment transdisciplinaire, encore intéressant. Et alors, c'est pas encore décidé au niveau du lieu. Alors, les dates, je crois que c'est au niveau de fin juin. Et le lieu, ça pourrait être l'université de Yale. Voilà.
Oui, la SSE, ils couvrent beaucoup l'ufologie. Ils ont publié, au cours des années, il y a pas mal d'articles que j'ai lus pour ma thèse dans le Journal for Scientific Exploration. Et puis, ils couvrent aussi la cryptozoologie.
Oui, c'est une des rares revues qui est indexée. Alors, elle est indexée en ingénierie, mais. Il y a quand même un processus de peer review assez complet et tout, donc non, c'est pas mal, quoi.
Ok, super. Bah, je pense que voilà, on a réussi à faire un post-mortem, même si t'es au cuic et que parfois je crois qu'on entend quand même un peu.
C'est McDo.
Ouais, c'est cuic, je suis en Belgique. Mais...
Arrête de faire la pub là.
Non, mais c'est parce que j'ai eu une jeune fille qui est venue du Japon là, de 13 ans. On l'a accueillie dans ma famille pendant une semaine et alors on a été manger au cuic à un moment parce que dans les visites touristiques qu'on faisait, puis elle était en état de choc. Elle fait mais le cuic ça n'existe pas au Japon. Alors elle était sidérée parce que le Japon évidemment c'est le pinacle de la civilisation. Ouais.
Ah bah oui, il faut qu'elle fasse importer ça.
On a quand même le cuic en Belgique, non, déjà.
Ah mon Dieu, oui.
Tu sais, on lui a fait visiter la magnifique ville de Bruges et tout ça, mais ce qu'elle a retenu, c'est que nous, on a cuic, quand même.
Ah bah ouais, bah c'est un porte-étendard, hein, que veux-tu. Bon, bah c'était sympa d'avoir fait ça avec toi, et puis...
À une prochaine.
À une prochaine. Salut, Jean-Michel. Bye.